Scientifiques dans les oreilles. Les doctorants vous emmènent à la découverte du monde de la recherche. Par Nantes, ADBS et le Labo des Savoirs.
Merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Donc, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Loussoirne, je suis doctorante en troisième année au CRCINA, qui est le Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Nantes-Angers, et je travaille dans le domaine de la biologie de la santé.
Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours pour nous expliquer comment tu es arrivée jusqu'ici ?
Alors, entre Nantes et Clermont-Ferrand, qui sont les deux villes où j'ai étudié, le choix des formations a toujours été faite par rapport à la passion, que ce soit de ma licence 3 jusqu'à mon master 2 aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la thématique de ton laboratoire et également de ton sujet de thèse ?
J'ai la particularité d'être passée dans deux équipes différentes au sein du même laboratoire, ce qui m'a permis de travailler sur deux sujets de thèse très différents. Le premier, j'étudiais l'administration d'une protéine qu'on appelle médicament par voie orale, puisque en principe, ces protéines sont plutôt injectées par injection intraveineuse. Et le deuxième sujet sur lequel je suis actuellement en train de travailler, c'est d'étudier les interactions et les effets des pesticides sur notre barrière intestinale. L'avantage d'avoir travaillé dans deux équipes et donc sur deux sujets différents, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un panel de techniques que je peux réaliser au laboratoire qui est plus diverse que si je n'avais étudié qu'un seul sujet de thèse.
Pourquoi tu t'es lancée dans la recherche ? Qu'est-ce qui te motive dans tout ça, alors que c'est des études qui sont assez longues et compliquées ?
Tout comme pour mes études, c'est la passion qui m'a amenée vers la recherche. Je suis d'une nature curieuse et c'est lors de mon premier stage que j'ai réalisé en Master 1. J'étais dans une équipe qui travaillait sur des protéines en interaction avec le cholestérol. Et le maître de stage que j'avais à cette époque était en train de passer son doctorat et il m'a transmis cette passion et je me suis retrouvée dans la passion qu'il avait pour son sujet et la science en général. Donc ça a été une révélation pour moi, il fallait que je continue et que je fasse un doctorat.
Merci Aurélie pour cette présentation passionnante.
Merci.
Des scientifiques dans les oreilles.
Bonjour Michaël Croyal, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent ici pour répondre à nos questions qui porteront sur votre parcours et le poste que vous occupez actuellement. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire à quoi correspond votre métier ?
Alors mon métier a plusieurs facettes, on va dire trois principales. Donc je suis déjà responsable d'une plateforme technologique, une plateforme de spectrométrie de masse. Donc à ce titre, je dois rendre des services contre rémunération ou pas, hein, ça peut être des collaborations de recherche. La deuxième, c'est qu'en tant qu'ingénieur de recherche et responsable de groupe, j'ai aussi une activité de recherche propre, hein, en rattachement avec notre unité, donc qui est l'Institut du Thorax. Et une troisième activité, et ça c'est lié à l'université, c'est bien normal, c'est une activité de formation, donc accueil d'étudiants pour des TP, accueil de stagiaires, encadrement de thésards, accueil de post-doctorants français ou étrangers.
J'ai entendu que vous aviez parlé de la spectrométrie de masse. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sans rentrer trop dans les détails ?
Alors oui, ça c'est une belle question. La spectrométrie de masse, c'est un très bel outil. Je dirais maintenant indispensable à la recherche. Donc c'est pour faire très simple, hein, c'est une sorte de radar à molécules qui va permettre de déterminer la structure de diverses molécules, hein, de toutes petites aux très grandes, comme les protéines, de pouvoir les quantifier, les compter, et donc de les quantifier dans des pathologies diverses et variées.
Quand on a trois casquettes comme vous, quelles sont les compétences nécessaires pour occuper ces postes ?
Elles sont assez multiples. Déjà, il faut être assez ouvert. Moi, je suis chimiste de formation. Alors, ça fait déjà longtemps, hein, que j'ai passé mes diplômes. Hein. J'ai passé mon DEA, ça n'existe plus comme diplôme, en 2003. Et donc, j'étais chimiste initialement. et toujours intéressé par la biologie, je me suis ouvert à la biologie. C'est comme ça que je suis arrivé dans une discipline à l'interface justement entre chimie et biologie, aux diverses qualités pédagogiques dont on veut pouvoir avancer, surtout dans le milieu académique où la plupart des travaux sont réalisés par des étudiants. Certaines qualités de communication aussi, je pense, et puis surtout beaucoup de travail, quoi. Faut jamais lâcher le morceau.
Votre thématique de recherche est en lien avec le métabolisme des lipoprotéines dans les maladies cardiométaboliques. C'est un projet ancré dans le domaine de la biologie. Or, les études que vous avez faites, notamment pour vous amener vers la spectrométrie de masse, sont plutôt dans le domaine de la chimie. Est-ce qu'une réelle volonté de votre part de vous placer à l'interface de ces deux domaines, ou est-ce lié au cours de la vie, aux opportunités ?
Non, ce n'est pas du tout lié aux opportunités. Alors en fait, comme beaucoup d'élèves, d'étudiants, de lycéens, j'étais partagé, arrivé en terminale, hein, entre la biologie et la chimie. Dans les deux cas, il y avait des choses qui me plaisaient, des choses qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai un peu joué ça au dé. Hein. Je suis parti à la fac de chimie, pensant que j'y trouverais mon compte. Et arrivé assez vite, alors toujours pareil, en maîtrise, un diplôme qui n'existe plus vraiment, maîtrise de chimie, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser tomber comme ça la biologie. Donc j'ai fait mes stages dans des services de ce qu'on appelle en industrie pharmaceutique d'ADME, donc c'est de la pharmacocinétique des médicaments, pour essayer de rattraper un petit peu le volet biologie santé humaine. Ça m'a plu tout de suite, et ça c'est l'avantage aussi de ma discipline, la chimie analytique, qui permet d'évoluer un peu où on veut, donc dans l'environnement, l'agroalimentaire, la santé humaine. Et donc je suis allé là-dedans, j'ai travaillé pas mal d'années en santé humaine d'un point de vue pharmacologique, et petit à petit j'ai dévié vers les maladies en fait métaboliques, donc plutôt un travail disons de dépistage de maladies plutôt que de soins des maladies.
Comment le travail réalisé sur la plateforme, qui correspond à des prestations de services, vous permet également de produire de la science et ainsi réaliser votre recherche ?
Dans mon laboratoire, les prestations de services, c'est à peu près 40% de l'activité. Donc c'est justement une source de revenus, une source d'entretien du matériel. Donc c'est pour ça aussi que j'encadre des techniciens ou assistants ingénieurs qui permettent de réaliser ces travaux-là. Ça dégage de l'argent qui permet tout simplement d'entretenir le laboratoire. À côté de ça, je prends beaucoup d'étudiants, donc de différents niveaux, Master 1, Master 2, thèse et même post-doc, qui me permettent justement d'aller fouiller un petit peu dans mes propres travaux, qui me permettent de gagner en crédibilité par la voie des publications, des congrès internationaux, de demander des financements pour nos travaux de recherche propres. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être rattaché à une unité de recherche. Donc nous, on est rattaché à la fois à l'Université de Nantes, mais à la fois à l'Institut Thorax, donc une grosse unité, une CERM CNRS.
Vous avez parlé d'encadrement, vous avez parlé de techniques sur la plateforme. Pouvez-vous nous dire quelle est une journée type pour vous ?
Oula, déjà c'est une journée assez longue. Elle va commencer vers 8h30 et qui va finir plutôt vers 19h, 20h, 21h, ça dépend. La journée type, disons que sur les heures ouvrées, c'est beaucoup de gestion. C'est répondre aux mails, c'est répondre aux questions des étudiants, des techniciens, éventuellement réparer une machine, croiser des collègues, discuter d'un projet. Ça, c'est, disons, la première journée. La deuxième journée commence un peu plus tard, vers 17, 18 heures, où là, moi, je m'occupe de mes propres expérimentations, si j'en ai, hein, je manipule un peu moins que les autres. La rédaction, des articles, des projets, et la journée, ça ne va pas vraiment, en fait. Hein. Quand on rentre à la maison, des fois, on a encore un peu de travail. On arrive en week-end, on a encore un peu de travail. Voilà, donc ça c'est, j'irais une journée type quoi, une journée sans fin.
Qu'est-ce qui vous motive justement à travailler aussi dur, d'avoir des journées, comme vous dites, sans fin, dans ce métier ou dans les postes que vous occupez ?
C'est un métier passion. La plupart des métiers scientifiques, surtout à partir d'un certain niveau, si on ne le fait pas avec passion, on ne le fait pas. Parce que ce n'est pas pour l'argent, ça c'est clair, surtout dans le milieu académique. Hein. C'est vraiment, enfin moi je n'ai pas l'impression de travailler en fait, j'ai l'impression de m'amuser.
C'est une passion.
Une passion.
Il y a peut-être certaines choses que vous aimez moins, par exemple, dans ce métier ?
Clairement l'administratif, hein, les demandes d'argent, toute cette paperasserie sans nom, enfin sans fin. Je ne sais pas si c'est le système français qui veut ça, mais il faut toujours écrire un document quand on veut déplacer un meuble. Il faut aller voir 4 personnes quand on veut faire réparer un store. Enfin, c'est ce genre de choses. Alors normalement, on est appuyé par des personnes dont c'est le rôle, mais souvent, il faut les superviser. En fait, il faut leur dire, il faut leur écrire les documents, il faut les valider après. Enfin, voilà, donc c'est cette partie-là qui m'exaspère.
Nous allons maintenant aborder une autre partie de votre carrière. Vous travaillez dans l'académique, mais votre parcours ne l'a pas toujours été et vous avez travaillé notamment dans le privé. Pouvez-vous revenir un petit peu sur ce parcours que vous avez eu ?
Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi j'ai passé un diplôme universitaire qui s'appelait un DEA, donc en chimie analytique. Donc, j'avais déjà arrêté la chimie synthèse pure en maîtrise pour faire de la chimie analytique, justement avec la vision de l'adapter en fait, à différentes thématiques. Donc je suis parti en stage dans l'industrie pharmaceutique, donc une boîte privée. J'ai eu la chance d'être embauché à la suite de mon stage. J'ai travaillé 7 ans dans cette entreprise. J'ai énormément appris, notamment sur la partie biologie et sur la partie autonomie. Donc c'est ce qui m'a apporté, je pense, certaines qualités que j'utilise aujourd'hui encore. Et donc, bon, au bout d'un moment, alors c'était très recherche aussi cette boîte-là. Hein. C'était des anciens de l'Inserm qui avaient monté cette entreprise. Donc il y avait une philosophie très très recherche. Donc c'est ce qui m'a plu. Comme beaucoup de gens, en fait, au bout d'un certain temps, j'ai voulu couper le cordon ombilical et essayer de voler de mes propres ailes. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de monter un laboratoire dans une autre petite entreprise privée, alors ce qu'on appelle une CRO, c'est une entreprise de recherche sous contrat. Alors bien qu'il y ait le mot recherche dans l'intitulé, c'est vraiment que dans l'intitulé, en fait. C'est vraiment de la prestation de service. On fait ce qu'on nous demande de faire, donc très, très loin de ce que j'aime. Mais je ne le savais pas à l'époque, donc j'y suis allé surtout pour le challenge de monter un laboratoire, voir si j'étais capable de le faire tout seul. Donc j'ai réussi, c'était toujours du privé, donc ça allait de l'achat du spectromètre de masse jusqu'à la qualification de l'instrument, jusqu'à la qualification du laboratoire auprès de la NSM. J'y suis resté 2 ans. Je dirais qu'au bout d'1 an, j'ai fait le tour. À partir du moment où le laboratoire est installé, ça ne me plaisait pas. Et bon, après, j'ai eu quelques éléments de vie personnelle qui ont fait que je me suis retrouvé un peu plus mobile. Et je me suis dit, bah, quitte à faire, autant se faire plaisir. J'ai encore une 30aine d'années, je pense, à travailler. Et j'ai eu l'occasion, vraiment, c'est le jeu de la chance, une commerciale qui m'a dit qu'à Nantes, on cherchait un ingénieur pour une plateforme Inserm. Et donc, c'est comme ça que j'ai postulé. Donc, c'est vrai que j'ai quitté un CDI plutôt pas trop mal payé pour un CDD pas très bien payé. La négociation que j'ai faite à l'époque, c'était de faire un diplôme qui me manquait, qui me garantissait de la recherche au moins pour 3 ans, c'est-à-dire une thèse. Et donc, c'est comme ça que j'ai migré vers l'académique.
Moi, j'aimerais revenir plus particulièrement sur votre doctorat que vous avez fait après avoir travaillé et non dans la continuité des études comme c'est le cas habituellement. Quelle a été la particularité de votre doctorat ?
C'est compliqué ce schéma-là en France. Mais c'est un schéma qui est assez classique finalement dans les pays anglophones, de travailler un petit peu et de faire une thèse. Alors le gros avantage, c'est que j'ai écrit mon sujet, j'ai vraiment fait ce que je voulais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait considérer que c'est une très bonne thèse. J'ai une thèse avec cet article scientifique, donc ce qui est assez rare, en tout cas d'un point de vue études. Comme vous l'avez dit, en fait, j'avais aussi des activités d'encadrement, j'avais la gestion du laboratoire, j'avais tout un tas de choses. Mais je pense que les 10-12 années d'expérience acquises ont fait que ce n'était pas vraiment un problème. En fait, c'était juste une petite tâche en plus, c'est-à-dire de mener sa recherche, d'écrire un document. On écrit plus vite aussi quand on a travaillé pendant 10 ans. J'ai dû rédiger 100aine de documents scientifiques. Donc ça, c'est le gros avantage. Et je reviens au système français qui est un peu particulier. L'inconvénient, c'est que quand on veut faire une carrière, pas si je peux dire normale, mais en tout cas pure académique, c'est-à-dire après partir en post-doc, après revenir faire les concours, devenir chercheur, INSERM, CNRS, INRA, peu importe, et après devenir directeur de recherche, c'est en général le schéma classique, c'est très compliqué. Donc j'aurais pu le faire, il aurait fallu que je parte en post-doc après ma thèse. Donc j'avais l'opportunité de partir en Australie, dans un très bon laboratoire. Le problème, c'est que voilà, moi j'ai passé ma thèse à 36 ans, 2 enfants, ça devient compliqué de partir 1 an, 2 ans comme ça à l'autre bout du monde. Tant que les choses resteront en tout cas comme ça dans le système français, moi je ne dépasserai pas le grade d'ingénieur de recherche.
Combien de temps avez-vous mis pour obtenir ce poste dans l'académique à partir du moment où vous êtes rentré en doctorat sur cette plateforme ?
Alors je suis rentré en tant qu'ingénieur. J'ai commencé la thèse 1 an après être arrivé. Donc, je suis arrivé en 2013. J'ai commencé la thèse en 2014. J'ai soutenu en 2017. Et je suis resté contractuel jusqu'à janvier de cette année. Contrat université, contrat INSERM, contrat CHU. Là, j'ai été titularisé, ce qu'on appelle sur fonds propres. En fait, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis en CDI. C'est-à-dire que j'ai un contrat à durée indéterminée de la part de l'Université de Nantes, la fac de médecine. Mais il faut que je m'engage à trouver l'argent pour me financer chaque année.
Est-ce que vous pensez que ne pas réaliser un post-doctorat est un frein pour l'obtention d'un poste ?
Alors oui et non. Disons que quand on veut vraiment faire du CNRS ou de l'INSERM, il faut un post-doc. Un post-doc à l'étranger. Autrement, c'est même pas la peine d'essayer les concours. Ça, c'est la première case à cocher. La deuxième, c'est la production scientifique, c'est-à-dire le nombre d'articles et surtout leur impact factor. Mais vraiment, le post-doc est rédhibitoire. Si on ne l'a pas fait, aucune chance d'être chargé de recherche INSERM-CNRS. Par contre, c'est pas un frein spécialement. Il y a des gens, par choix, ne font pas de post-doc, choix familiaux ou des choix personnels, et sont très bien au statut IR, ingénieur de recherche. Donc là, il n'y a pas besoin de post-doc pour être ingénieur de recherche. Pour être maître de conférence, pas nécessairement non plus. De toute façon, tous les contrats qu'on a après la thèse, en général, sont en CDD et peuvent être considérés comme des post-doc. Donc beaucoup de gens font des post-doc en France, dans le même labo, dans d'autres labos, et peuvent postuler comme ça au poste de maître de conférence. Donc ça, c'est pas un problème.
Depuis que vous avez obtenu ce poste d'ingénieur de recherche titulaire, donc CDI, quel changement cela a eu sur votre quotidien pour la plateforme ?
La chose, c'est que quand on est en CDD régulier, on ne s'arrête jamais en fait. Il y a toujours quelque chose à faire, il faut toujours trouver de l'argent pour se retrouver un contrat l'année suivante, il faut toujours rédiger des projets, des appels à projets, hein, pouvoir continuer à rester dans les locaux. Et donc disons que depuis quelques semaines, j'essaye de ralentir un tout petit peu la cadence, hein, mais ce n'est pas évident. 3 ans de thèse, 4 ans à chercher de l'argent pour rester, en fait je ne suis jamais trop sorti du rush, quoi. Donc ça ralentit un petit peu, ça c'est la première chose, et l'autre chose c'est on gagne un peu en pragmatisme. C'est qu'on se dit finalement, beaucoup de gens utilisent nos services. Alors, quand on est contractuel, on a tendance à faire beaucoup de services pour se rendre un peu indispensable. Maintenant, les services vont se payer, parce que je suis une plateforme, donc j'ai des machines à entretenir, donc je contractualise plus les choses, donc on fait rentrer plus d'argent, et donc on pérennise aussi la continuité du CDI. L'université s'est engagée à me garder, je me suis engagé à leur donner de l'argent, en tout cas à hauteur de mon salaire tous les ans. Mais ça laisse quand même des perspectives à plus long terme. Je commence à avoir un peu plus grand, là j'ai embauché quelqu'un en tant qu'assistante ingénieur. Évidemment, je continue à prendre des stagiaires, mais j'essaie d'avance de trouver des bourses de thèse pour pouvoir les garder en thèse. J'essaie de réfléchir aussi au retour d'anciens étudiants en tant que postdoc pour les amener au concours. Donc voilà, on essaie de voir les choses un peu plus loin. Avant, on avait une vision à 1 an, 2 ans.
Merci beaucoup pour avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Merci à Michaël Croyel d'être venu aujourd'hui répondre à nos questions. Cet épisode des scientifiques dans les oreilles est terminé. Il a été réalisé par Dounia Saez du Labo des Savoirs. Retrouvez l'association Nantaise ADBS sur Facebook et LinkedIn, ainsi que l'ensemble de nos épisodes sur Spotify. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. You never know what's around.